Morning Edition from NPR News.
Wenn Sie dies an Hinterhaus sehen.
France Inter, le 18-20.
Il est donc sorti du chapeau à Bruxelles ce sixième train de sanctions qui prive la Russie de déboucher pour son pétrole. Enfin, pas tout à fait quand même, il y a eu quelques arrangements pour préserver notamment l'unité européenne, des arrangements du côté de la Hongrie. On revient sur tout ça dans un tout petit instant. Le bruit du monde est au Chili ce soir, où est mis la dernière main à la nouvelle constitution qui révolutionne vraiment ce pays et qui en fait peut-être aussi un modèle pour certains de ses voisins. Mais vous verrez que les jeux ne sont pas faits pour autant. Le bruit du monde, la suite, sous les radars. Sébastien Eugénie a trouvé une manifestation en Iran après l'effondrement d'un hôtel. Un milliardaire écolo en Australie, un rappeur indien assassiné au Punjab. 18h50, passons genre dans le monde et Julia Foyce avec Laverne Cox, transgenre hyper connu, vu dans Orange is the New Black, qui devient une poupée Barbie. Et puis 18h55, le monde d'après de Jean-Marc Four et la Micronésie qui envoie bouler le géant chinois qui voulait passer un accord. Croyez-moi, la Micronésie, c'est tout petit. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Synthès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Pierre Vimont.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur associé au think tank Carnegie Europe, vous êtes diplomate, ancien ambassadeur de France aux États-Unis, vous avez été secrétaire général exécutif aussi du service européen pour l'action extérieure à Bruxelles. Je le disais, le Conseil européen hier et aujourd'hui s'est finalement accordé, j'ai envie de dire in extremis, ça a été une discussion difficile pour un sixième train de sanctions, donc malgré les réticences hongroises, un petit peu celles des Tchèques et des Slovaques aussi, on va y venir. Est-ce que vous diriez malgré tout que la bouteille est à moitié pleine ou à moitié vide à l'issue de ces deux journées?
Je veux être optimiste, mm-hmm. Je dirais qu'elle est à moitié pleine. Vous savez, chaque train de sanctions que l'on met en place est plus difficile à mettre en place, mm-hmm. parce qu'on arrive au cœur de nos intérêts, aux uns et aux autres, aux difficultés que chacun des États membres peut avoir compte tenu de leur situation particulière. Et donc c'est vrai que désormais, chaque nouveau train de sanctions nous oblige à des négociations difficiles. Celles-ci ont commencé il y a déjà un certain mm-hmm. temps, elles sont difficiles. Ce que je note, c'est que notre partenaire américain, qui lui aussi prend des sanctions, la Grande-Bretagne également de son côté, reconnaissent l'un et l'autre que c'est difficile et comprennent les difficultés européennes. Donc ça se fait sans acrimonie, avec des négociations longues où chacun essaye de tenir compte de ce qui se passe chez l'autre et des difficultés qu'il peut rencontrer. Je note d'ailleurs que le président Zelensky lui-même, quand il s'est adressé au Conseil européen, a reconnu que c'était pas facile pour les Européens.
Il a été plus, j'allais dire sage, c'est pas le mot qui convient, il a été plus bienveillant, on va le dire comme ça, que la dernière fois qu'il s'était adressé au Conseil. Pourquoi, à votre avis, d'ailleurs?
Précisément parce qu'il voit bien que la situation est plus compliquée, qu'il est réaliste. Je dirais que sur la situation elle-même en Ukraine et les combats qui ont lieu, il est plus lucide et plus réaliste peut-être qu'il ne l'était il y a quelques semaines.
On sent bien que tout le monde a fait l'effort, en fait, de ne pas entrer en conflit frontalement, notamment d'ailleurs avec Viktor Orban. On s'est bien gardé d'avoir un mot plus haut que l'autre qui pourrait rendre la situation beaucoup plus difficile. Est-ce qu'on le fait pour nous? Est-ce qu'on le fait aussi pour donner à Moscou une image très ordonnée? Est-ce que c'est un peu les deux, mon capitaine?
C'est les deux, mon capitaine. C'est surtout parce qu'on sait que notre meilleure force, c'est l'unité. Et c'est notre capacité à rester unis. Sinon, il ne faut se faire aucune illusion. La Russie profiterait de nos divisions. Et on sait bien que sur toute cette affaire ukrainienne, la Hongrie, Viktor Orban, a eu une position un peu différente des autres et qu'il fallait faire attention à ne pas créer une division qui irait en s'approfondissant.
Mais du coup, est-ce qu'elle nous enlise quand même, la Hongrie? Est-ce qu'elle nous pousse, nous, à suivre celui qui est finalement le fauteur de troubles à l'intérieur des 27?
Non, parce que Viktor Orban avait placé la barre assez haut, demandé des soutiens financiers considérables.
800 millions.
Espérait peut-être aussi que la pression sur son attitude à l'égard de la règle de droit et les enquêtes que mène la Commission européenne puissent être éventuellement levées. Et au fond, ce qu'on a trouvé comme solution, c'est de lui demander d'aller de l'avant dans la prise de sanctions, mais de lui donner plus de temps pour se mettre en conformité avec celle-ci.
Alors lui, il demandait très concrètement, il demandait un délai de 4 ans, il demandait 800 millions d'euros pour pouvoir mettre un certain nombre de ses infrastructures aux normes. Mm-hmm. Et ce qu'il obtient au fond, c'est que, en gros, les routes maritimes sont coupées, mais le pipeline, lui, ne l'est pas. Donc il aura, lui, au fond, toujours son pétrole.
Il aura toujours son pétrole, et parce qu'il ne fallait pas faire prendre des décisions qui auraient pu être extrêmement difficiles pour la population hongroise. Imaginez qu'on nous dise du jour au lendemain ici en France qu'il n'y a plus de pétrole du tout. La Hongrie est extrêmement dépendante du pétrole russe. Comme la République tchèque, comme la Slovaquie. Mmh. Et donc, il n'y a pas que la Hongrie. Les deux autres pays également que je viens de citer ont eu le droit à une situation, une sorte de dérogation temporaire.
Ce qui est compréhensible, effectivement, parce que les situations ne sont pas les mêmes. Et d'ailleurs, on y viendra dans un tout petit instant. Quand on discutait charbon, c'était facile. Pétrole un peu moins. Gaz, ce sera encore plus difficile. Exact. On verra bien d'ailleurs si on finit par y aller. Mais on se dit quand même que chez Viktor Orban, il y a une forme d'arrière-pensée. On sait bien que le dernier allié de Vladimir Poutine en Europe, c'est celui-là. Donc il y a quand même des arrière-pensées dans sa manière de négocier, y compris l'apport en pétrole pour sa population.
Vous avez raison, mais comme toujours avec Viktor Orban, il fait attention à ne pas aller trop loin. C'est-à-dire qu'au fond, il est sans doute, comme vous le dites, celui qui reste le plus sensible au discours de Vladimir Poutine. Mais en même temps, il ne veut pas se couper définitivement des autres Européens. Et donc, on a trouvé ce compromis. Alors c'est un compromis que tout le monde a scruté parce que avec cette terrible crise ukrainienne, avec cette guerre qui continue, tous les regards sont porté sur Viktor Orban, mais sur beaucoup d'autres sujets que l'on adopte, sur beaucoup d'autres dossiers que l'on adopte de manière régulière, ce type de compromis, une dérogation pour un pays qui a des vraies difficultés, ce sont des pratiques que l'on connaît en Europe.
Et sans risque de déséquilibrer le marché intérieur réellement, parce que forcément le pétrole du pipeline va chuter probablement.
Si j'ai bien compris, dans l'accord, on tient compte aussi de cette situation, c'est-à-dire que les trois marchés hongrois, tchèques et slovaques seront en quelque sorte, en matière énergétique, coupés du reste de l'Europe pour pas qu'ils puissent bénéficier de cet avantage.
Est-ce qu'on dit, Pierre Vimont, que ça a été tellement compliqué qu'on fait une pause? C'est ce que disent certains pays aujourd'hui d'ailleurs. Avant de parler gaz, on fait une pause. Ou faut-il avancer sur notre... y aller sur notre... sur cette avancée, en fait, dans la foulée?
C'est-à-dire que toute cette série de sanctions que l'on adopte, et il faut tenir compte aussi d'un autre aspect de ces sanctions dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est le secteur bancaire, où cette fois-ci on met dans le pot la grande banque Sberbank, la grande banque russe, et ça c'est un réel progrès en termes de sanctions. Parce qu'on n'avait pas osé jusqu'à maintenant mettre cette banque dans un train de sanctions. C'est la banque la plus importante, c'est donc là encore une sanction qui va peser lourd sur le secteur bancaire russe. Donc ce qu'il faut voir derrière toutes ces sanctions, c'est leur effet à moyen terme et à long terme. Ça prendra du temps, mais incontestablement, on serre la vis encore davantage dans tous les domaines de l'économie russe.
Et le gaz, on attend donc? Est-ce que c'est même ce que vous dites, il faut qu'on attende.
Même si, comme vous l'avez vu, un certain nombre de pays se préparent même l'Allemagne, qui est extrêmement dépendante du gaz russe, reconnaît qu'à terme, il va falloir que cette dépendance soit réduite. Mais pour cela, il faut prendre des mesures de compensation, mettre en place de nouveaux modèles de fourniture en matière d'énergie, et ça prend du temps.
Un certain nombre de pays, effectivement, vous l'avez dit, notamment les Allemands, sont évidemment beaucoup plus réticents. On voit bien la différence avec certains pays également. Se préparer jusqu'à un certain point, parce que c'est pas comme si on pouvait en un claquement de doigts dire ben, on va finalement aller chercher notre gaz ailleurs ou avoir un certain nombre d'installations. En même temps, est-ce qu'on a vraiment du temps devant nous, Pierre Vimont?
Alors, deux choses. Sur le gaz, oui, il faut du temps. On ne trouve pas à s'approvisionner sur le marché comme cela immédiatement. Ceux qui peuvent le faire, l'Algérie, le Qatar ou d'autres pays encore, l'Égypte, qui monte lentement en puissance en matière d'exportation de gaz, demandent du temps. Ils ne peuvent pas le faire comme ça. D'autre part, si on veut passer vers d'autres fournisseurs, par exemple en gaz liquéfié, ça demande toute la mise en place masse d'équipements industriels qui requièrent également du temps. Donc il faut se donner le temps nécessaire pour faire cette évolution vers d'autres modes de production ou d'acquisition du gaz ou vers d'autres fournisseurs. Et ça, c'est forcément, ça prend du temps. Pour ce qui est de la question plus générale, est-ce qu'on a du temps ? Oui. Non, plus la guerre dure, plus en effet c'est difficile. C'est difficile pour les Ukrainiens d'abord, parce que c'est eux qui font cette guerre. C'est la population ukrainienne qui est sous les bombes russes. Et donc on voit bien que plus on attend et plus ça traîne, plus ce conflit devient douloureux, dangereux, meurtrier, et qu'il faut prendre cela en compte aussi. Mais à la fin des fins, quand on veut parler éventuellement d'un cessez-le-feu, de négociations de paix, ce sont les Ukrainiens qui doivent décider ce qu'ils veulent faire. Et je crois que là, on est tous d'accord là-dessus.
Alors, et vous m'offrez une transition toute trouvée, ce sont les Ukrainiens, effectivement, qui doivent le prendre en compte. Est-ce que ça veut dire que c'est eux qui donnent le feu vert et qui doivent nous dire parler oui avec Vladimir Poutine pour que ça revienne jusqu'à moi ? Doivent-ils le faire avant ? C'est l'un des débats qui aujourd'hui, qui existent au sein de l'Union. On a un Emmanuel Macron, un Olaf Scholz aussi, qui sont plutôt favorables à garder cette ligne avec Vladimir Poutine, d'autres beaucoup moins. Qu'est-ce que vous en dites ? Est-ce qu'on le garde, ce fil ouvert ? Est-ce que ça sert à quelque chose, surtout ?
Il y a deux éléments dans votre question. Est-ce qu'il faut garder le fil ouvert ? Oui, probablement, parce que si nous le faisons pas, les seules personnes avec lesquelles Vladimir Poutine discute, c'est les gens qui le soutiennent ou qui sont sensibles à ses arguments et qui donc en réalité disent la même chose que Poutine. Entendre des dirigeants qui lui disent, qui lui tiennent un langage différent, qui soulignent et qui soutiennent les positions ukrainiennes, je crois que c'est utile et qu'il faut le faire. De là à penser, c'est le deuxième élément de votre question, de là à penser que Poutine va évoluer et va tout d'un coup dire oui, non, bien sûr, c'est long, ça prend du temps, et probablement lui aussi regarde très exactement ce qui se passe sur le terrain, et si les positions actuellement sur le terrain sont favorables aux troupes russes ou aux troupes ukrainiennes. Et c'est probablement en fonction de cela que peut-être il évoluera sur le temps.
Est-ce que vous avez le sentiment qu'on pêche collectivement par excès d'optimisme, nous, quand on voit la manière dont les combats se poursuivent? On a l'impression, on l'a lu, dit, vu, entendu, que mais oui, l'Ukraine peut gagner cette guerre. Est-ce qu'on est en train de pêcher par optimisme?
Alors, là encore, il y a deux attitudes différentes. Un certain nombre de nos partenaires au sein de l'Europe espèrent toujours que l'Ukraine va gagner. Et bien évidemment, tout le monde préférerait cette solution si nous étions dans une situation où on pouvait aboutir à une victoire franche et nette. Mais la vérité, c'est telle qu'on voit les choses qui évoluent sur le terrain. On assiste à des progrès de l'Ukraine dans certains domaines. On l'espère peut-être demain dans le sud. On note en revanche que dans le Donbass, c'est plutôt la Russie qui avance lentement. Et donc, on est dans cette situation où le paysage sur le terrain s'équilibre progressivement.
Parce qu'on a bien vu, Pierre Vimont, au moment où il y a eu des tiraillements, je ne sais pas s'ils existent encore d'ailleurs, entre Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron. Emmanuel Macron plutôt le patron de l'UE à ce moment-là, pas tellement le président français. C'était aussi parce qu'on a bien senti que du côté de la France, et pas seulement, l'idée c'était d'essayer de revenir à ce qu'était Minsk 2, en fait. Donc, revenir dans, j'y mets des guillemets, parce que dans les ex-frontières du Donbass, les premières avancées russes avant les bombes du 24 février dernier. Est-ce que c'est l'une des options, des solutions ? On a l'impression au contraire qu'on n'y est plus là du tout.
Non, on n'est pas dans Minsk 2. Je crois que ce que les Ukrainiens craignent, c'est qu'on soit dans quelque chose qui pourrait ressembler à Minsk 3. Ouais. C'est-à-dire un moment où de nouveau on aura un cessez-le-feu chaotique, très incertain, instable, et où une éventuelle négociation diplomatique aboutirait à un résultat qui n'est satisfaisant ni pour l'une ni pour l'autre partie. C'est ça le risque à l'heure actuelle et ce que les Ukrainiens ne veulent pas. De là à penser qu'ils veulent à tout prix, et on le sent bien chez Vladimir Zelensky, qu'il y a, comme on le disait tout à l'heure, plus de réalisme, il y a le sentiment qu'il faut en tout cas essayer de se mettre dans une position militaire qui ne soit pas défavorable avant d'entamer des négociations. Et c'est cela un peu actuellement le but de guerre d'un côté comme de l'autre.
Vous avez vu comme nous que les Américains ne veulent pas livrer à la Hongrie des systèmes de lance-roquettes parce qu'ils peuvent taper jusqu'à la Russie en fait. Et ça dit, est-ce que ça dit pas en creux qu'on a peur aussi d'une réaction disproportionnée ou d'un excès de confiance ou d'un excès de colère de la part des Ukrainiens?
C'est-à-dire que du côté américain, ils n'ont cessé de le dire, ils soutiennent l'Ukraine, mais ils ne veulent pas être eux-mêmes en guerre avec la Russie. Ils ne sont pas belligérants. C'est ce que nous disons également du côté européen, d'ailleurs. Et donc, tout le monde est sur le fil du rasoir à l'heure actuelle. Et c'est ça qui est difficile. C'est une situation extrêmement difficile, extrêmement délicate, mais chacun veut rester sur ces positions-là.
Il nous reste une poignée de secondes, Pierre Vimont, sur l'adhésion à l'Union européenne qui revient de manière très récurrente. Doit-elle être plus rapide et accélérée pour un pays comme l'Ukraine? Seriez-vous favorable à ça?
Il faut d'abord attendre ce que va nous dire la Commission. Vous savez, c'est sur cette base-là que nous déciderons. Et la situation de l'Ukraine est une situation quand même très particulière actuellement. Et donc, il faut leur trouver et trouver une réponse qui soit à la mesure du défi qui est posé à l'Ukraine.
Donc, cet entre-deux, avant d'entrer, pas tout à fait entré, pas exactement sorti,
qui a été proposé déjà. Il y a plein de compromis possibles. Hein, et il faudra voir entre leur accorder le statut formel de candidat sans pour autant ouvrir encore les négociations ou trouver une autre formule. L'important, c'est de tenir compte de la situation ukrainienne.
Pierre Vimont, merci beaucoup. Vous reviendrez avec grand plaisir chez nous dans Un jour dans le monde.
Merci
très bientôt.
À vous.
Le 18-20, Fabienne Synthès. Sur France Inter.
La suite ce soir, c'est le bruit du monde au Chili qui met la dernière main à sa nouvelle constitution avant un référendum à la rentrée. C'est une vraie révolution, cette constitution. Mais c'est pas joué d'avance et vous allez voir jusqu'à quel point. Pour aller jusqu'à 19h, sous les radars, Sébastien Logénie.
Nous irons en Iran où les manifestations contre la corruption se multiplient après l'effondrement d'un immeuble qui a fait 34 morts.
Passons genre dans le monde, comme chaque mardi, et Julia Foyce avec une nouvelle loi réjouissante pour les femmes en Espagne. Et Laverne Cox, transgenre iconique qui devient une poupée Barbie. Le monde d'après, Jean-Marc Four. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir à tous. Dans la catégorie David contre Goliath, les minuscules États du Pacifique Sud viennent d'envoyer promener le géant chinois qui leur proposait un grand deal économico-sécuritaire fascinant.
Allez, à tout de suite tout le monde. Le tour de la planète n'est pas fini. Il passe par Brooklyn, New York avec les parquets de courts. Watching Stranger Smile. Regardez les inconnus sourire. C'est dans la playlist de France Inter. Le bruit du monde ce soir est au Chili. Dernière ligne droite pour l'Assemblée constituante qui n'a plus qu'un mois pour finaliser la rédaction de la nouvelle constitution. Une vraie révolution pour ce pays qui vit, vous le savez, sous une constitution écrite sous la dictature Pinochet. En septembre prochain, il faudra voter. Ultime référendum obligatoire pour ou contre le nouveau texte constitutionnel. Mais déjà, les deux camps s'organisent et tentent d'influencer l'opinion publique. Le reste à Santiago, c'est Naila Dorouané, pardon, qui raconte.
Aux abords de l'ex-Congrès national, là où s'écrit en ce moment la nouvelle constitution, Erika González installe son stand. À 76 ans, cette retraitée vient ici avec quelques amis depuis des mois pour défendre le travail de l'Assemblée constituante.
Nous voulons une nouvelle constitution, que les lois changent. Il y a beaucoup de corruption. Nous voulons également des meilleurs systèmes de santé et d'éducation pour nos enfants. Car un pays éduqué est un pays qui avance.
Erika distribue aux passants des flyers officiels qui lui sont remis par l'Assemblée constituante et qui expliquent les normes qui ont été approuvées dans la nouvelle constitution.
Il y a des personnes qui n'ont aucune idée de ce qu'est la nouvelle constitution. C'est pour cela que je suis ici, pour leur donner des informations. Nous sommes là tous les jeudis, les mardis, nous nous mettons un peu plus loin dans une rue piétonne ou encore dans le métro. Nous allons aussi dans les collèges. Il faut que cette nouvelle constitution soit approuvée car elle sera bénéfique à tout le monde. Et puis tout ça, c'est historique. C'est très beau ce qui est en train de se passer.
Mais selon une récente étude, 58% des personnes interrogées disaient avoir eu connaissance de fausses informations à propos de l'Assemblée constituante. C'est le cas d'Alexander, un étudiant de 20 ans.
C'est très difficile de s'informer à travers les réseaux sociaux, car il y a énormément de fausses informations qui circulent.
Alexander a assisté à une conférence organisée par son université, où quatre membres de l'Assemblée constituante sont venus présenter leur travail.
Je n'ai pas beaucoup étudié le brouillon de la nouvelle constitution, donc j'ai envie d'en savoir plus et de devenir un expert en la matière. Il y a beaucoup de Chiliens qui devraient s'informer davantage des normes qui sont dans la nouvelle constitution. C'est donc une très bonne chose que l'université ait invité des membres de la constituante pour échanger avec nous.
On organise beaucoup d'activités avec les communautés et les écoles.
Gloria Alvarado Jorqueca fait partie de l'Assemblée constituante et participait à la conférence.
On intervient aussi à la radio pour que les gens s'imprègnent du nouveau texte constitutionnel.
Dans les semaines à venir, la grosse difficulté, selon Gloria, sera de faire face aux camps qui s'opposent à la nouvelle constitution.
Il y a des gens au sein de l'Assemblée constituante qui ont voté contre la nouvelle constitution et ils n'ont jamais travaillé dans l'optique d'élaborer un texte pour répondre aux demandes sociales de la population. Au contraire, ils ont toujours essayé de nous mettre des bâtons dans les roues pour entraver le processus constitutionnel. Ça me fait beaucoup de peine et ça m'énerve car c'est un travail dans lequel nous avons mis toutes nos forces.
Ces personnes dont elle parle, Maria Olivia Monkeberg les a identifiées. Elle est journaliste d'investigation et professeure à l'Université du Chili.
L'opposition à la nouvelle constitution vient du secteur de l'extrême droite qui refuse tout type de changement et aussi de certains milieux du monde des affaires. Ces secteurs utilisent plusieurs techniques pour répandre leur vision, notamment à travers les réseaux sociaux où ils diffusent des mensonges ou alors ils sortent des phrases de leur contexte.
Maria Olivia se souvient du cas du sénateur de centre-droit, Felipe Cast.
Il a clairement déclaré qu'il était contre la nouvelle constitution. Et il a récemment diffusé une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il disait que le président vénézuélien, Nicolas Maduro, apportait son soutien au nouveau texte constitutionnel. Mais en réalité, cette déclaration remonte à il y a un peu plus d'un an. Un sénateur de la République ne peut pas jouer ainsi avec l'information. Il ne peut pas faire de la politique à travers les réseaux sociaux. Mais malheureusement, c'est ce qu'il se passe au Chili.
En attendant le référendum de septembre où les Chiliens devront voter pour la dernière fois pour ou contre le nouveau texte constitutionnel, Erika va continuer de distribuer des flyers.
Je continuerai jusqu'à la fin et je demande à ma famille et à tout le monde de m'aider dans cette tâche parce que c'est pour nous tous, pas seulement pour moi. Et je ne verrai très certainement pas les bénéfices de tout cela, mais mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, eux, si. Et ça me rend heureuse.
De son côté, le nouveau gouvernement de Gabriel Boric a annoncé la semaine dernière qu'il mettrait à disposition plus de 800 000 euros pour la campagne d'information qui commencera d'ici un mois afin de promouvoir la participation au référendum.
Naïla de Rouanet pour le reportage. Pardon d'avoir écorché votre nom. Naïla de Rouanet, à très bientôt, bien sûr. Le bruit du monde, la suite, c'est l'actualité internationale passée sous les radars. Et c'est Sébastien Logeni. Et Sébastien, nous sommes dans les rues d'Abadan, ou Abadan, en Iran, où des milliers d'habitants manifestent après l'effondrement d'un immeuble.
Oui, nous sommes à 1000 km au sud de Téhéran, à la frontière irakienne, loin du pouvoir central des Mollahs. La semaine dernière, la tour Métropole, un immeuble de 10 étages, s'est donc effondré en plein centre-ville, faisant jusqu'ici 34 morts. Une centaine d'ouvriers sont encore portés disparus. Ce bâtiment faisait l'objet de critiques depuis longtemps. Son propriétaire, très proche du pouvoir, avait fait construire 10 étages au lieu des 6 autorisés. Et depuis ce terrible drame, eh bien, les manifestations de colère se multiplient pour dénoncer la corruption et la réponse tardive des autorités pour porter secours aux victimes. Manifestations très clairement dirigées contre le régime des ayatollahs. Comme ici, c'était dimanche soir dans la ville d'Abadan, jour de deuil national, décrété très tard, 6 jours seulement après la catastrophe. Un émissaire religieux a été envoyé par le guide suprême iranien, Ali Khamenei lui-même. Il prend la parole face à une foule qui se met à le huer. Qu'est-ce qui se passe ? Demande l'ayatollah à son garde du corps, visiblement dépassé. L'ecclésiastique reprend la parole. Mes chers, s'il vous plaît, gardez votre calme en signe de respect pour les martyrs. Mais la foule ne se calme pas et crie honteux, honteux à l'adresse de l'ayatollah. La retransmission en direct de la télé d'État est immédiatement coupée. S'ensuivent alors des heurts avec la police qui vise parfois directement la foule avec des fusils. S'agit-il de balles réelles ou de balles en caoutchouc? On ne sait pas à ce stade s'il y a eu des victimes. L'effondrement de cet immeuble en tout cas secoue tout le pays. Le pouvoir est-il ébranlé? Il y a désormais plus de policiers déployés dans les rues que de secouristes pour dégager les victimes des décombres.
Et direction l'Australie, Sébastien, la rencontre d'un milliardaire écolo.
Il s'appelle Mike Cannon Brooks, âgé de 42 ans, un air de hippie avec sa longue barbe mal taillée, mais l'un des 100 hommes les plus influents au monde, selon le Time, devenu milliardaire grâce aux nouvelles technologies et qui a décidé de mettre sa fortune et son talent d'investisseur au service de la planète, en clair, de devenir un actionnaire activiste pro-climat. Son dernier coup d'éclat, c'est d'avoir réussi à faire plier le plus gros pollueur d'Australie, AGL Energy. AGL, explique Mike Cannon Brooks, c'est l'un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre avec ses centrales à charbon. Le milliardaire a donc décidé de prendre plus de 10% des actions du groupe et lors de la dernière AG, il a réussi à faire capoter hier la stratégie de l'entreprise qui consistait à prolonger encore plus la durée de vie de ses centrales. Sous la pression de son principal actionnaire, AGL a fait savoir qu'elle renonçait à son plan. Le PDG, le directeur général ont donné leur démission. Un grand jour pour l'Australie, a tweeté Mike Cannon Brooks, qui ne compte pas s'arrêter là dans sa croisade pour le climat. Son grand projet révolutionnaire, c'est de créer une ferme solaire massive pour alimenter Singapour en électricité 24 heures sur 24 grâce à un câble sous-marin de plus de 4000 km de long.
Eh bien dites-moi, on termine en Inde avec l'assassinat d'un très célèbre rappeur.
Il s'appelle Sidhu Moosewala, à 28 ans. C'est l'un des rappeurs en effet les plus populaires en Inde, mais aussi dans la communauté indienne du Canada. Il a été tué par balle ce dimanche près de son domicile dans le Punjab. Son énorme 4x4 encerclé par 3 voitures, visé par une trentaine de balles, la police indienne évoque l'hypothèse d'une rivalité entre gangs. Voilà, c'est l'un des titres les plus connus de Sidhu Moosewala. 11 millions de followers sur YouTube. L'annonce de sa mort, revendiquée par un gangster canadien, a provoqué des manifestations dans tout le Punjab. Le Punjab ravagé par le trafic de drogue, c'est le premier état indien sur la route de l'héroïne et de l'opium. Parmi les dizaines de gangs qui y sévissent, certains n'hésitent pas à exiger de l'argent des rappeurs. Sidhu Moosewala s'était présenté aux élections locales. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées aujourd'hui pour sa crémation.
Eh ben voilà, une histoire bien souriante. Merci beaucoup Sébastien Logeni. À demain quand même. Je vous laisse avec Leila Makkala. Money is king. Encore une vision du monde optimiste.
If a man has money today, people don't care if he has coke or pay. If a man has money today, people don't care. If he has coke or pay, he can commit murder and get off free. Live in the governor's company. But if you are poor, people tell you, shoo, a dog is better than you. Whiskey cloth earring and diamond ring. Send it to your home on a motorbike. You can pay the bill whenever you like. And not a soul will ask you a thing. They know very well that money is king. Take him down to you see how a dog is better than you. So if a man has money today, people don't care if he has coke or bed. If a man has money today, people don't care if he has coke or bed. He can commit money.
Leïla Makkala, Money is King sur France Inter. Mesdames, messieurs et autres genres, nous sommes mardi, voici Julia Foyce.
France Inter. Un jour dans le monde.
Julia, chaque semaine, vous nous donnez des nouvelles des femmes dans le monde et de la planète aux couleurs LGBT. On commence par un slogan, seul un oui est un oui.
Et en espagnol, solo sí es sí. C'est un slogan, oui, féministe, oui. Mais donc c'est aussi un projet politique, une loi même, et un pas surtout décisif que vient de franchir l'Espagne dans sa lutte contre les violences sexuelles. Portée par la ministre de l'Égalité, Irene Montero, le texte place le consentement explicite au cœur des relations entre deux individus. Voté à la majorité absolue au Parlement, il prévoit en effet que tout acte sexuel n'ayant pas été approuvé, demander, désirer de manière claire et libre sera considéré comme une agression, voire comme un viol. Donc, le silence ne vaudra plus consentement et il n'y aura plus besoin de marques de violence, de traces de coups ou de menaces fracassantes pour prouver qu'il y a bien eu contrainte. Jusqu'ici, comme c'est encore le cas chez nous, c'était à la victime de prouver qu'elle ne voulait pas. Désormais, ce sera à l'accusé de prouver qu'elle voulait. Cette loi, dite du solo si es si, doit encore être approuvée par le Sénat, mais quoi qu'il en soit, c'est déjà une révolution au sens strict du terme, révolution des consciences, inversion totale du paradigme qui, comme le dit Irene Montero, entend substituer la liberté à la violence et le désir à la peur. L'Espagne faisait déjà office de pionnière dans son combat contre les violences faites aux femmes. Elle vient encore de le confirmer.
Et révolution aussi, Julia, chez Barbie.
Oui, c'est à l'américaine Laverne Cox qu'on la doit. Laverne Cox, vous vous souvenez? Actrice incroyable, série géniale, Orange is the New Black.
You want to look like the black best friend in the white girl movie. The cage is full, the day is new. I've given 5 years, $80,000 in my freedom for this. I'm finally who I'm supposed to be. Do you understand? I can't go back.
La première saison de la série est un carton, il y a 10 ans, provoquant derrière elle une petite onde de choc. Oui, déjà, enfin presque, 2013 si on veut être tout à fait précis. Provoquant derrière elle une petite onde de choc. Laverne Cox y est saisissante en Sophia Bursette, coiffeuse de cette prison pour femmes. Elle sera dans la foulée la première actrice transgenre à être nommée aux Emmy Awards et la première personne transgenre à faire la couverture du Time Magazine. Sa trajectoire est unique, assez représentative hein, du mythe américain, parce que issue d'un milieu populaire, parce que élevée par une mère célibataire, parce que victime de harcèlement à l'école, mais qu'elle a un double rêve, devenir femme et devenir actrice, qu'elle s'y accroche et qu'elle y parvient. Bref, elle est un symbole, mais pas que. Plébiscitée par le grand public et actrice très engagée dans le combat LGBT, c'est donc en toute logique que Mattel se tourne vers elle pour poursuivre sa politique d'inclusion. Une pétition pour une poupée Laverne Cox avait en effet circulé sur les réseaux sociaux en 2018 et l'idée avait beaucoup plu à l'intéressée. Et donc évidemment, ça a fini par se faire. Je dis évidemment aussi parce que Mattel a toujours fait preuve, malgré tout, d'une certaine ouverture. Des Barbie ingénieurs, des Barbie présidentes, il y en a depuis longtemps. Alors évidemment, ça ne fait pas oublier les mensurations totalement surréalistes d'Edith Barbie. Et on pourra toujours rigoler de cette façon pas forcément très subtile de surfer dans l'air du temps, sur l'air du temps, pardon. N'empêche, dans un monde où les enfants trans sont attaqués, rappelle l'actrice, une Barbie trans, c'est une célébration de la transidentité. C'est un espace pour rêver et pour rêver grand.
Et puis Julia, pour terminer, deux Telex.
L'Écosse, terre de liberté, le royaume a voté. Les couples homosexuels, hommes ou femmes, pourront désormais se marier à l'église. Protestante, hein, qui, elle, malgré quelques débats en interne assez houleux, se montre de plus en plus ouverte sur la question, alors que pour les catholiques du Vatican, c'est non, non, non et toujours non. Le Texas, terre de paradoxe, c'est là où, on le sait, a eu lieu la dernière tuerie de masse dans une école primaire la semaine dernière, hein, vous vous en souvenez évidemment, là où le port d'armes est toujours autorisé et il n'est même pas question d'en discuter, mais c'est là aussi où les sextoys sont interdits. Enfin, à partir de 6, Fabienne, oui, si vous avez plus de 6 sextoys chez vous, vous êtes hors la loi, c'est un délit. Et là, c'est assez délicieux pour moi d'imaginer le nombre de celles et ceux qui nous écoutent et qui sont en train de compter.
Voilà, 6 sextoys en plus. C'est difficile à dire. Merci beaucoup, Julia. On se retrouve évidemment la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Fabienne Saintès, le 18-20.
Le monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, vous nous emmenez ce soir à l'autre bout du monde. Pendant que tous les regards sont braqués, évidemment, sur l'Ukraine et sur la Russie, une gigantesque partie d'échecs se déroule dans le Pacifique entre la Chine et les États-Unis. Et Pékin, hier soir, a essuyé un revers. Et c'est votre monde d'après.
On dirait un peu une fable. Hein. C'est un peu comme si un lilliputien faisait un pied de nez à un géant avant de lui filer entre les pattes. Le président de la minuscule Micronésie a dégainé le premier. La Micronésie, c'est un archipel de 100 000 habitants au cœur du Pacifique, 14 000 fois moins peuplé que la Chine. David Panuelo, c'est le nom du président, n'a pas sa langue dans sa poche, petit oui mais musclé. Par le passé, il a déjà envoyé balader Donald Trump et il a été le premier à couper les ponts avec Moscou après l'invasion de l'Ukraine. Cette fois-ci, il appelle donc les pays voisins à refuser un grand accord proposé par la Chine. Il y voit un risque de fracture pour la paix et la sécurité. Et les 9 pays voisins, lui, emboîtent le pas. Hier soir, les Fidji, les Samoa, les Tonga, Kiribati, etc., tous ces pays connus essentiellement des amateurs de rugby, ont adressé une fin de non-recevoir à la Chine, un pied de nez, alors que le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, est au beau milieu d'une tournée de 10 jours dans la région pour vendre précisément ce grand deal, des millions de dollars d'aide économique chinoise contre une exploitation des ressources naturelles, une cartographie des fonds marins et une coopération sécuritaire. Les minuscules États du Pacifique ont dit non, nous ne voulons pas de cette vision commune de développement. Humiliation quand même pour Pékin qui doit se contenter d'un accord à minima sur l'agriculture.
Et donc ça c'est la partie émergée d'un gros iceberg géopolitique.
Oui, ça nous paraît très loin hein, vu d'ici, hein, mille lieues de nos préoccupations, vous lisiez, liées aux effets en chaîne de la guerre en Ukraine. Le Pacifique c'est pourtant l'autre grand jeu d'échecs stratégiques en cours, ou jeu de go si vous préférez puisqu'on parle de la Chine. Tout le monde voudrait contrôler cette zone parce qu'il y a probablement d'importantes ressources sous-marines et parce que ces îles sont autant de pions militaires potentiels sur cet océan qui sépare les deux géants chinois et américains. Le revers subi hier par la Chine est en partie la conséquence de la remobilisation des États-Unis et de l'Australie sur le sujet. Il y a 10 jours, Joe Biden, en déplacement au Japon, a proposé un nouveau traité Indo-Pacifique, puis l'Australie est passée à l'offensive. À peine nommée au portefeuille des affaires étrangères après les élections là-bas, il y a 8 jours, Penny Wong, elle est australienne, il ne faut pas se fier à son patronyme, Penny Wong s'est précipitée aux îles Fidji pour couper l'herbe sous le pied de Pékin en arrivant juste avant son homologue chinois, Etok. Et elle a vanté un nouveau partenariat, 350 millions d'aides supplémentaires, un soutien dans la lutte contre le réchauffement climatique, enjeu majeur dans les îles du Pacifique, une simplification des procédures de visa. Dans le même temps, Washington a dénoncé l'opacité du deal proposé par Pékin Et l'ancien Premier ministre australien Kevin Rudd a appelé à cesser de traiter les États du Pacifique avec condescendance. Il y a vraiment un grand match en cours.
Sauf qu'on imagine que la Chine n'a pas dit son dernier mot.
Certainement pas. Pékin n'a certainement pas renoncé. D'abord, la Chine continue elle aussi de marquer des points. Le mois dernier, elle a signé un premier partenariat économico-sécuritaire avec les îles Salomon. C'est très au sud, hein, c'est tout près des côtes australiennes. Pékin va aider le pouvoir, qui est contesté par la rue, à maintenir l'ordre et pouvoir en échange exploiter des ressources du sous-sol. Toujours la même chose. Il n'est pas question de base militaire pour l'instant, mais ça viendra peut-être. Et puis malgré la fin de nos recevoirs d'hier soir, d'autres pays comme les Fidji ou les Samoa ont quand même intégré le dispositif chinois des nouvelles routes de la soie. Sans oublier que plus au nord, au large du Vietnam et des Philippines, la Chine continue de construire des bases sur des îlots et de conduire des manœuvres militaires. C'était encore le cas le week-end dernier. Il ne fait donc aucun doute que Pékin reviendra à la charge auprès des 10 pays du Pacifique Sud pour proposer un nouveau package économico-sécuritaire, un nouvel accord de libre-échange avec à la clé un accès au marché chinois et son 1,4 milliard d'habitants. C'est un argument de poids. Pékin, comme toujours, mise sur le temps long et ne doute pas que tous ces pays finiront par succomber à ces sirènes. Il n'y aura pas toujours des David Panmelo micronésiens pour défier le géant. La partie ne fait que commencer.
Le monde d'après et Jean-Marc Four tous les soirs dans Un jour dans le monde. Merci Jean-Marc. Bien sûr, à demain. Pour nous, ça continue le 18-20. La suite, c'est le téléphone sonne juste avant. Il y a le journal d'Hélène Philly. Merci de passer la soirée avec nous. Ne changez rien.